Mon premier album.
À moi.
On est parti?
3, 2, 1, clap.
Bonjour à tous, bonjour Barbarou.
Tu recommences s'il te plaît, faut que ce soit propre, tu recommences.
Bonjour à tous et bonjour Barberousse. Pour ce deuxième épisode de l'année, nous recevons aujourd'hui Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Grincheux. Bonjour Barberousse.
C'est très gentil. Bonjour, bonjour Marie.
Alors,
qu'est-ce que c'est que ce truc encore?
Désolé, c'est une notification à la con. Bon, je vais recommencer parce que j'ai coupé.
Je ferai pas de montage, vas-y, continue.
Ok, je vais couper.
Mais moi j'aime bien quand c'est quand ça fait le bordel, donc vas-y, ça fait encore
alors,
plus le boulot.
Donc deuxième épisode avec Marie. Donc pour ton premier album, tu nous ramènes en 1972. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur 1972?
C'est alors, une année bissextile.
Très probablement, en effet. C'est aussi la tristement année du Bloody Sunday.
Ah oui.
Chantée par U2.
Ah, est-ce que tu me permets une petite remarque? Pour ceux qui nous découvrent maintenant, sachez qu'absolument tout ce qu'on va dire vient de Wikipédia. Donc, en gros, cherchez pas. Voilà. C'est Wikipédia, ça doit être vrai. Sinon, démerdez-vous.
Et si c'est faux, c'est Wikipédia qui dit de la merde.
Voilà, exactement. Nous, on fait que répéter, on est bêtes. Hein. Mais je t'en prie, excuse-moi.
1972, c'est aussi le dernier vol de la mission Apollo, et donc, par conséquent, le dernier homme sur la Lune. À part Elvis, Michael Jackson.
Et des nazis plus tard dans les Red Sky.
Et des nazis sur la face cachée, mais ça c'est notre histoire. C'est l'année du rapport Meadows sur les limites de la croissance. Alors si vous connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. C'est super intéressant. Et ce mec avait tout compris sur les limites de la croissance et tous les impacts écologiques que ça allait avoir il y a déjà 50 ans maintenant.
Je veux dire qu'il y a un mec qui a 50 ans, avec tout un tas d'autres scientifiques, qui avait compris que la croissance infinie, ça n'existait pas. Et
c'était de la merde.
Dans un modèle de vie qui était absolument pas tenable. C'est incroyable.
Voilà. Et pour rester sur ce côté climatique, écologique, c'est aussi le premier sommet de la Terre.
Sommet de la Terre, c'était quoi ça?
Bah, c'est ce qui...
Et tout en haut, d'accord, mais en vrai...
C'est les premiers sommets...
C'est les COP, en fait.
C'est ce qui est devenu les COP.
C'est pas tout à fait les COP. Hein. Il me semble que ça parlait un peu de développement durable, quand même. Les COP, c'est plus axé sur la limitation des gaz à effet de serre.
Alors, apparemment, les sommets de la Terre sont des rencontres organisées tous les 10 ans depuis 1972 dans le cadre de l'organisation... des Nations Unies. Elles sont dédiées au développement durable. Le premier sommet à Stockholm en 72 avait donné naissance au programme des Nations Unies pour l'environnement. PNUE. Voilà, c'est le PNUE. Je sais pas si ça a fait grand-chose après, mais j'espère que oui.
Donc voilà, bon, je me suis limité là sur les anecdotes mondiales, globales. On a eu pas mal de naissances, comme tous les ans, mais dans le monde de la musique, pas mal de naissances. Plein de monde du monde du punk à roulette, donc on a Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt et Très Cool, qui sont respectivement chanteurs, bassistes et batteurs de Green Day.
Taylor Hawking. Très Cool, c'est son nom.
Oui.
Ah, ok, non, j'avais pas compris.
Très T-R-E.
Ah, ok.
Taylor Hawking, qui est le batteur des Foo Fighters. Mark Hoppus, chanteur et bassiste de Blink-182. Voilà, ça c'était pour la partie punk à roulette, et puis alors, sinon on va trouver Gizmo de Trio, Paul Gray qui est le bassiste de Slipknot, Stommy Bugsy, Notorious Big,
ouais.
Mike Kroger, bassiste de Nickelback.
Alors tu vois Marie, l'objectif c'est de absolument tout commenter et de bloquer Grincheux au fur et à mesure de ce qu'il dit.
Je
te conseille, c'est très drôle, c'est très rigolo.
C'est quand même une quatrième bassiste de la liste, hein, déjà.
Vas-y.
C'est un peu compliqué parce que ce sont des personnes dont la plupart, j'ai pas entendu parler.
C'est pas grave, nous non plus.
Ouais, voilà, c'est... la naissance de Garou.
Ah oui.
Isabelle Boulay.
Ah.
Jerry Halliwell.
Ah.
Liam Gallagher.
Ah.
Eminem.
Ah.
Brian Molko.
Sandrine Rousseau, apparemment, en mars. C'est D'accord.
Sandrine Rousseau. Je n'ai pas noté parce que je me concentre surtout sur les
musiciens.
Sur les musiciens, ça fait déjà beaucoup.
T'inquiète, continue, je vais te déconcentrer.
Vanessa Paradis.
Ah. Sébastien Coé. Il a fait de la musique quelque part, il a dû chanter des trucs.
Non. Mélissa Aufdermore, qui est la bassiste des Smashing Pumpkins.
Ah, elle était pas métisse, enfin voilà.
Jesse Tobias, guitariste des Red Hot.
David Charvet, acteur et chanteur français. Qui se souvient de David Charvet?
Pas moi.
Je crois que j'ai volontairement omis de le mettre dans la liste.
Ça s'appelle un traumatisme, oui, je comprends.
Mais bon, dans les traumatismes, j'ai mis Tarkan, hein.
Ah oui, non mais... Non, tu as Wentworth Miller, qui est né en juin. C'est le mec de Prison Break.
Je sais pas, je connais pas Prison Break.
C'est un mec qui cherche à s'échapper de prison, mais il a le...
Oui, je connais le pitch, mais j'ai... Oui. Et il s'est fait tatouer la carte sur le dos, machin, mais c'est con, parce que le dos, tu peux pas le voir.
Oui.
Bon voilà, déjà ça a une belle liste, et encore je vous parle que des musiciens parce que sinon il y en a plein d'autres. On avait Philippe Candeloro, Shaquille O'Neal, Ramsey, Judith Godrèche, Dwayne Johnson, Jean Dujardin, Zinedine Zidane, Alicia Milano.
Ah, bien.
Mais t'as tout ça sur Wikipédia ?
Il y a tout ça sur Wikipédia, ouais.
Je t'ai mis le lien. Bah, c'est bien. Il y a des gens qui s'occupent, hein. C'est pratique pour nous, quoi. Jude Law aussi, tiens.
Ah, Jude Law, c'est bien.
Juste de nom, je sais même pas ce qu'il a fait.
Jude Law, c'est un acteur.
Jude Law, c'est un acteur. Il a joué dans Gattaca.
Il a joué dans des films de Woody Allen aussi. J'ai oublié le titre, mais un film qui était assez sympa.
1972, c'est aussi la mort de Maurice Chevalier et de Bobby Lapointe.
Ouais, Bobby Lapointe, ouais.
Grosse
Bobby Lapointe représente.
Très triste.
Ah oui.
Et mathématicien en plus.
Mais en fait, on l'a découvert, Bobby Lapointe, après sa mort.
La méthode Bibi.
La maman des poissons.
Oui.
Mes enfants ont chanté ça toute leur enfance. C'était un peu pénible à la fin.
J'ai chanté ça toute mon enfance. Ça a été ce qui a aussi rythmé une grande partie des voyages en voiture avec mes parents.
Exactement. Oui, mais je crois qu'on est... Beaucoup de gens sont passés par là, ouais.
Oh, c'est terrible.
Mais Bobby Lapointe, c'était aussi... j'ai été adhérente d'un syndicat professionnel et on Bobby Lapointait pas mal dans nos repas entre chaque réunion. Et c'était assez sympa.
Ça fera peut-être partie d'un nouvel épisode qu'on fera plus tard. Et ma première réunion à moi, où on parlera de nos premières réunions en entreprise. Mais je vous laisse juger ce qu'on fera après. Grincheux, on t'a interrompu.
Mais alors comme on est là pour parler de musique, qu'est-ce qu'on écoutait en 1972? Alors, 1972, c'est l'année des débuts de Véronique Sanson, mais surtout de Frédéric François.
G-Code, salut.
G-Code représente, avec un titre qui ne nous fera pas mentir, Je voudrais dormir près de toi.
Oh la vache, c'est vrai.
C'est...
Alors, c'est il paraît que c'est quelqu'un de très bien, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est vrai qu'on lui a mis cher. Hein, c'est... Par méconnaissance, mais on lui a mis cher.
On lui a mis cher, mais bon, enfin, il nous aide pas non plus, quoi, faut reconnaître.
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'était pas facile, quoi.
Bah, en même temps, c'est un beau projet, je voudrais dormir près de toi, je trouve.
Oui.
Au-delà de la chanson.
C'est quelqu'un que je connais pas qui me dit ça, il va se prendre une droite, hein.
Effectivement.
Et puis quand tu vois que tous les titres de l'album, c'est toujours, t'as l'impression que c'est un incel qui a écrit ça.
C'est toujours les femmes magnifiques, je t'aime, je t'aimerai toujours. Mais... Oh là là, c'est incroyable.
Je ferai tout pour toi, mais toi tu m'aimes pas en fait.
C'est un style, il faut apprécier. Quoi.
Mais en fait, vous le critiquez, mais vous le connaissez par cœur.
Quand on critique, il faut connaître.
J'ai découvert grâce à G-Code, parce que c'est la première fois que je connaissais ce nom, mais je n'avais jamais écouté. C'est la première fois que j'ai écouté un album de Frédéric François. Et bon, les paroles m'ont un peu... ne m'ont pas emballé, on va dire.
Oui. Moi, j'ai déjà été en maison de retraite, donc au bout d'un moment, voilà.
Mais bon, revenons sur notre année 72. Donc en 72, on a Michel Polnareff qui fait scandale avec son affiche pour l'Olympia. et qui se prend par la même occasion une amende de 60 000 francs.
C'était quoi l'affiche au fait?
C'était l'affiche où il était cul nu.
Ah oui, avec un chapeau.
Avec un chapeau et déjà une paire de lunettes de soleil.
Ouais, je me rappelle.
Le lundi, on écoutait Clo-Clo au soleil.
Ah.
Michel Fugain nous chante une belle chanson, une belle histoire.
Salut G-Code.
Ah, un beau roman, une belle histoire. Voilà. Ah oui, c'était beau ça.
Pierre Perret invite les enfants à libérer tous les oiseaux.
Pas mal aussi.
Paul Naref part en vacances.
Ouais.
Holidays.
Ah oui, ok, d'accord. Ouais, c'est bon.
Non, je vais pas me planter parce que je... Non. Gérard Palapra fait sa valise pour la fin du monde.
Ah oui, d'accord, oui, je vois.
Il va là-haut sur la montagne en passant.
Ennio Morricone fait la révolution.
Et alors, non, vas-y, enchaîne. C'est...
Et Hot Butter électrise le monde avec du popcorn.
Ah, c'était un peu vraiment le début de la musique électronique, en tout cas.
Le tout début de la musique électro, ouais. Mais c'est resté un morceau classique.
Mais il y a quelqu'un qui a chanté autre chose. Oui, bah Michel Polnareff, il a chanté autre chose.
Oui, alors j'ai pas mis tous les titres de tout le monde là.
Ouais, mais
plus,
on sait très bien où on va aller après. Enfin, sauf
Mike Brandt.
Alors,
on a Mike Brandt ne sais pas, mais je sais plus. J'ai perdu le titre original. Ça y est.
Il y a qui saura parce qu'il sait plus. Et puis il y a
C'est
ma prière.
Qui saura, oui.
Parce que voilà.
Et puis Stone et Chardin partent à l'aventura.
Alors, je crois que j'ai eu le 45 tours de l'aventura. Ouais, ce soir, je vais être obligée d'avouer des choses. Il me semble que j'ai eu le 45 tours.
Tu as vu le logo du podcast. Je pense que, globalement, on a plus de 15 ans. On va pas se mentir.
Il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de honte. Ouais. À part si tu avais vraiment un cylindre en cire, et là, ce serait vraiment très compliqué. Mais il y a déjà Randall Flagg qui a fait le... Il est passé avant, c'est bon. T'inquiète.
Et puis, 1972, c'était le premier album d'un petit jeune qui débute, Maxime Le Forestier, dont tu vas nous parler avec son album Mon Frère.
Ah, voilà.
Juste deux secondes que je lance. En plus, le premier titre s'appelle Mon Frère.
Oui. L'album, au départ, n'avait pas de titre.
Exactement.
Et c'est la réédition CD qui s'est appelée Mon Frère.
Exactement, oui. Au début, ils l'ont appelé Maxime Le Forestier ou Maxime. Et puis... Alors, c'est assez bizarre que ce soit mon... Enfin, c'est la première chanson de mémoire, Mon Frère, sur l'album. Mais c'est assez bizarre qu'il l'ait appelé Mon Frère, parce que c'est pas la chanson qui est, je pense, la plus restée de cet album.
Bah non, il y a clairement des titres qui sont...
Il y a San Francisco, par exemple. Il y a...
Oui.
La Rouille.
San Francisco,
On va y venir, donc on va peut-être commencer déjà par une petite... se remettre dans l'époque. Est-ce que tu l'as acheté?
Ah oui, je l'ai acheté. C'est vraiment mon premier album que j'ai acheté avec des sous à moi. Et ça a coûté à l'époque assez cher par rapport à...
Et c'était des francs. Hein,
ah bah oui.
Pour les plus jeunes, c'était des francs. C'est avant l'euro. Hein, c'est il y a loin ça.
Enfin, les francs, c'est jusqu'à l'an 2000, hein, quand même. C'est pas si.
Oui, mais.
Oui, c'était des francs.
Il y a des jeunes qui nous écoutent.
Et ça coûtait. Ça devait coûter dans les 30 et quelques francs, quoi. Donc, alors, c'est sûr que ramener à. Aujourd'hui, ça fait 5 euros, c'est pas grand-chose. Mais à l'époque, quand c'était quelques francs, autant que je me souvienne, c'était quand même assez important. Et. Bon, moi, j'avais pas beaucoup d'argent déjà. Et puis, j'avais vraiment envie d'acheter cet album parce que moi, j'étais en quatrième. On commençait un petit peu avec les potes, on commençait à se la jouer un petit peu rebelle. Et c'est vrai que Maxime Le Forestier, c'est sans doute la personne qui, à l'époque, nous paraissait la plus proche de nous. Déjà, il était jeune, hein, il avait juste. 23 ans, je crois, ou quelque chose comme ça, 23, 24 ans. Donc, c'était un peu révolutionnaire pour jeune ado, on va dire. Pas révolutionnaire peut-être, parce qu'il y a quand même, bon, il y avait Parachutiste, hein, qui est quand même, je sais pas si, qui est quand même une chanson antimilitariste.
Alors, je dois avouer que, ne le connaissant pas, c'est vrai que j'avais pas tendance à l'associer à quelque chose de révolutionnaire ou autre chose. C'est un point très intéressant.
Le Maxime de Manon, enfin, je sais même pas s'il chante encore, parce que moi, j'ai complètement, je me suis plus intéressée à lui après la fin des années 70. Mais le Maxime le Forestier de l'époque, c'était, je pense que, il y avait pas encore Renaud, par exemple. Donc, en fait, c'était le rebelle. Ah oui, pour nous, les jeunes ados, c'était le chanteur rebelle. On avait des vieux rebelles, genre Brassens, dans un autre genre, mais il n'y avait pas de jeunes, en fait. Donc je crois que c'est pour ça qu'il nous a plu.
Alors, il est en tournée.
Actuellement ?
Le 9 février à Saint-Martin-de-Croix, le 17 février au Havre, et plein de dates comme ça. Donc, il chante encore.
Mmh. Oh, ben, en fait, oui, il chante encore. Il a le même âge que Véronique Sanson.
Comment tu as eu ces sous-là ? Tu as travaillé ? On te les a offerts ?
Non, j'ai pas travaillé pour gagner des sous à cette époque-là, pas encore. Non, ça doit être des. Je pense que c'est des cadeaux genre Noël, anniversaire, comme ça. Ou...
Et tu peut-être... l'as perdu, cet album, depuis ?
Ouais, en fait, je l'ai perdu parce que. Je l'ai perdu en cours de déménagement, je ne sais plus lequel. Ouais, j'ai pas mal déménagé dans ma vie et du coup, je l'ai perdu et je n'ai pas voulu le racheter en CD. Voilà, donc, mais maintenant, bon,
Est-ce que tu le ferais ? Est-ce que tu le rachèterais ? Juste pour principe de l'avoir.
En CD ?
Ouais.
Le problème, c'est que j'ai plus rien pour écouter les CD non plus.
Ouais, mais pour l'objet, quoi.
Ouais, je sais pas. Alors après, c'est peut-être une question d'âge, mais le CD, en fait, ça me branche pas trop. Moi, j'aimais bien les 33 tours, en fait. Et je me demande si un jour, je rachèterai pas une platine... Pour écouter les 33
tours. Trop cher en plus, donc...
Je sais pas trop.
C'est revenu à la mode, donc il y a des platines abordables qui, là où il y a quelques années, c'était vraiment un truc d'expert et il n'y a plus que des platines très très haut de gamme. On retrouve maintenant des platines, voire des platines qui ont des sorties USB que tu peux brancher directement sur ton ordinateur. Ils sont abordables, oui.
Ouais, ça coûte pas trop cher. Peut-être qu'un jour je m'y intéresserai. Parce qu'effectivement, je trouve que c'est dommage. J'ai quelques albums que j'ai gardés malgré les différents changements de lieu. Et j'aimerais bien les réécouter.
Eh bien, sachez-le, avec le code Grincheux, vous aurez une réduction de 15% sur les platines vinyles sur Amazon. Voilà.
Ah non, pas Amazon.
Bon. Restante, hein.
Sinon on donne un coup de main aux copains, le code sondier chez Thomann. il y a un partenariat, je crois que c'est avec Thomann qui sont maquillés en ce moment les sondiers, donc
peut-être.
Ça fait pas de réduction, mais bon, ça fait un petit cashback pour eux qui permet de les financer.
Non mais de toute façon. Thomann, faut jamais y aller, c'est tout. Si vous êtes dans le podcast, n'y allez pas, de toute façon, vous allez perdre un bras. Grincheux, je te passe la main pour la suite des questions.
Tu nous dis que bon, t'as perdu dans les déménagements cet album. Malheureusement, c'est une chose... ça arrive à tout le monde. Mais est-ce que tu te souviens de la pochette, et notamment de l'illustration de la pochette ?
Oui, je me rappelle à peu près bien. Il y avait, je crois que c'est juste la tête de Maxime Le Forestier, ses grands cheveux, enfin des cheveux baba cool, une barbe. Et puis.
Faut dire franchement cool, oui.
Ouais. après, les baba cool ont évolué, donc c'est un peu. Et puis, il y avait des couleurs, vert rouge, je crois, des fleurs peut-être.
Les fleurs dans les cheveux.
Il n'y a pas une référence à Fontenay-aux-Roses avec des roses, peut-être, sur la pochette.
Une rose. Je ne sais pas si c'est une rose, oui. C'est une... une treille avec, avec un rosier sur voilà. Un mur derrière, oui.
Oui, il n'a pas une rose dans la bouche quand
non,
même.
C'est pas...
Non, peut-être pas à ce moment-là. C'est...
Voilà, et donc il y avait juste sur l'album, il y avait juste marqué Maxime. Je suis même pas sûre qu'il y avait écrit Maxime Le Forestier.
Pour la photo que j'ai, il y a Maxime Le Forestier en jaune, avec ce petit regard. Moi je suis un hippie, mais je suis un homme sensible. Et sa petite rose juste à côté à gauche. C'est beau.
Oh, tu es méchant comme ça avec lui.
Écoute, c'est un rebelle.
Il est méchant voilà. Avec tout le monde.
Oui, non, mais exactement.
Je t'assure qu'à l'époque, c'était un rebelle. Il chante quand même parachutiste en 1972. Alors vous, vous étiez pas né, mais moi je me rappelle qu'en 1972, c'était quand même vachement policé. Comme, un petit jeune comme ça qui arrive à chanter une chanson anti-militariste à la télé. Je trouve que ça fait rebelle quand même.
Oui. Ah oui, non, mais moi je connaissais pas la chanson parachutiste. J'ai écouté l'album. Comme tous les albums des gens qu'on interviewe dans le podcast.
C'est pour qu'on cherche des prêts avec moi, c'est que lui, il écoute les trucs.
Et puis, il chante aussi une chanson, ça sert à quoi tout ça, tu vois? C'est genre, quel est le sens de la vie? Pareil, pour des ados qui commencent à se poser un petit peu des questions, tout ça, ça parlait beaucoup, hein.
Ouais, non, mais on sent une vraie sensibilité de l'époque hippie post-68 d'aller à l'encontre du système moi je retrouve aussi l'esprit de ce que je lisais dans les Bilal et Christin. Je sais pas si tu connais les BD de Bilal scénarisées par Christin, ou qui sont franchement anti-militaristes, anti-nucléaires, etc. Et oui, je retrouve un peu cet esprit-là dans les textes de Forestier, oui.
Alors il y a ça, puis après il y a un côté un peu poétique. Tu vas mourir pour une nuit, là, qu'on entend un petit peu en fond. C'est un peu plus des interrogations sur l'existence, mais de façon poétique. En tout cas, j'ai vraiment le souvenir qu'on se passait ce disque, on se le repassait très très souvent. Faut savoir quand même qu'à l'époque, on n'avait pas tellement de loisirs, hein, donc ça nous permettait.
C'était avant l'invention du cerceau, hein, donc forcément,
voilà,
on s'ennuyait beaucoup. Je comprends, oui.
Non, mais si tu commences à discuter à 14 ans, bah, tu commences à discuter de plein de choses, et puis des disques comme ça, ça renforce un peu la discussion, je pense. Et c'est vrai que ça... C'était pas Brassens, c'était pour nous, en tout cas, c'était différent comme apport musical.
Oui, puis c'est pas la même génération que Brassens. Donc,
ah ben non, pas du tout. Non, c'est la génération d'après.
Même si les thématiques de fond sont proches, on n'a pas. Je comprends tout à fait que, surtout adolescent, on n'a pas envie de suivre les mêmes rebelles que nos parents.
Oui. Enfin, encore faut-il avoir des parents rebelles, mais oui. Effectivement, c'est pas. Enfin, on écoutait Brassens hein, quand même. On l'écoutait, on le chantait même. On se faisait engueuler, je me rappelle. Engueulé par un pion parce qu'on avait chanté Brassens dans un couloir. Bref. Mais c'était quand même assez répressif encore la période. Et puis en plus, moi j'étais dans une petite ville où les choses elles arrivaient tranquillement, il ne fallait pas trop les brusquer. Et alors, donc non seulement j'ai acheté l'album de Maxime Le Forestier, mais ça a été aussi mon premier concert.
Ah!
En live. Ouais. Il est venu, parce qu'en fait, il a fait un deuxième album l'année d'après. Il a fait deux albums deux années de suite. Et du coup, il a fait une tournée. Et il est venu dans la petite ville où j'habitais. Enfin, j'habitais dans un village, mais il est venu dans la ville, à Beaune, c'était, en Côte d'Or. Et il y avait peut-être les deux tiers du collège dans la salle.
Alors, je regarde le nom du deuxième album, Le Steak,
ouais,
et ça prend beaucoup plus de sens avec le premier titre.
J'ai pas souvenir du steak.
73, le steak, premier titre, le steak ou complainte de ceux qui ont le ventre vide, considéré comme une gaudriole par ceux qui ont le ventre plein.
Ah ouais,
bah, ah, j'aime bien.
C'est... Bah tu vois, c'était rebelle aussi, ça.
Ah oui.
Mais alors, j'ai pas souvenir de cette chanson. Maintenant que tu t'en parles, effectivement, mais j'avais souvenir de « Je m'en fous de la France, on m'a menti ».
Le 11e titre, apparemment. « Les lianes du temps ».
Ouais, « Entre 14 et 40 ans ».
Tu étais né en mai.
Ah oui, si tu étais né en mai. Et en plus, il y avait des chansons écolo, tu vois, parce que sur le premier album, donc celui dont on parle ce soir, il y a « Comme un arbre dans la ville ». Et ça, c'est une chanson écolo. Donc en fait, il y avait vraiment des thématiques qui parlaient aux jeunes ados.
Mais ça passait comment, là, cette orchestration à l'époque ? Des voix, un orchestre derrière, ça changeait de, bah, on va dire, on a parlé de Brassens, juste guitare ou juste accompagné avec juste un instrument.
Il n'y avait pas d'orchestre derrière. J'ai pas souvenir qu'il y avait un orchestre derrière. Il y avait donc Maxime qui jouait de la guitare. Il avait une de ses sœurs qui jouait avec lui, Catherine, je crois. Et je sais plus de quel instrument elle jouait. Mais il n'y avait pas. Je pense que c'est ce que la version que tu as, elle a été remasterisée.
Ah, peut-être.
Parce que j'ai. Et en tout cas, quand il était sur scène, par exemple, enfin, le premier concert, et le seul concert de lui que j'ai vu d'ailleurs, il n'avait que sa guitare.
Ah, ah d'accord.
Une guitare sèche. Donc, il n'y avait pas cette orchestration en accompagnement.
Maintenant, une autre question. Est-ce que ça t'a donné envie d'apprendre à jouer de la guitare ?
Alors, j'avais commencé d'apprendre la guitare un petit peu avant, mais ça n'a pas marché. Non, la guitare et moi, on ne s'est pas entendu, on s'est séparés.
Ou alors peut-être d'écrire quelques textes ?
Non plus. J'ai gardé la poésie dans ma tête, mais j'arrivais pas à la concrétiser. Par contre, ça m'a participé à ma formation de révolté, je pense.
Ah.
Donc, j'en ai gardé un petit peu quelque chose quand même.
De toute façon, tout ce qu'on écoute, ça nous marque quelque part. Enfin, ça... qu'on l'apprécie avec le temps ou pas, ça fait partie de notre histoire et de ce que si ça a été quelque chose qui nous a été marquant à un moment, ça laisse des traces.
Oui, bah surtout. Alors bon, après, moi je vois ça, c'est 50 ans en arrière hein, quand même, mais à l'adolescence, j'ai l'impression que ce qu'on entend, c'est en tout cas à ce moment, à cette époque-là, c'était très percutant, dans un sens comme dans l'autre, hein. Je veux dire en positif comme en négatif, quoi. Ça restait. Moi, j'ai beaucoup plus de souvenirs de ces périodes-là que de la fin des années 70.
C'est vraiment une période clé, formatrice. Bah,
oui, puis c'était un petit peu particulier. La société, elle changeait un petit peu après 68, hein, quand même. Doucement, mais sûrement, y compris dans l'éducation nationale. Et voilà. En plus, moi, j'ai eu des profs qui nous ont encouragés. J'avais un prof de français, il nous faisait écouter et travailler sur des chansons de Brassens, par exemple. Donc, ça aussi, ça nous aidait bien. Enfin, je sais pas. Mes enfants n'ont pas eu des profs qui les faisaient travailler sur des chanteurs, sur des textes de chanteurs.
Il y a des profs d'allemand qui font travailler sur des textes de Rammstein ou de
ah oui
Tokyo Hotel,
ah
ouais. Donc bon.
Oui, ouais. Moi j'ai...
En anglais, en anglais j'ai travaillé sur des textes.
J'avais un prof de musique qui nous avait fait travailler sur du Goldman.
Ah ouais ?
Ça aurait pu être pire.
Oui, oui. Il y a des profs là, de mes gamins qui sont assez ouverts sur pas mal de trucs. C'est plutôt cool. Je trouve que c'est plutôt cool.
Par les profs de musique, il y en a des biens. Salut Michida.
Oui.
Non, c'est encore un clin d'œil, t'inquiète pas.
J'aurais aimé avoir Michidar comme prof de musique, parce que j'en ai eu un paquet qui était pas du tout Michidar. Hein.
Bah, sans déconner, oui. Ah, là, j'aurais bien aimé aussi, oui, c'est clair. Est-ce que ça t'a... Je me permets de prendre la suite, vu que... Je crois que c'est en bleu, moi.
Oui, c'est toi en bleu, oui.
Ah bah, je prends, alors.
Mais attends, Non, qu'est-ce...
Non, parce que... Là, ce style de musique-là, tu l'avais découvert avec Maxime Le Forestier ou tu avais déjà découvert d'autres artistes ?
Bah, en fait, non. En fait, moi, j'écoutais un petit peu Brassens. J'écoutais sinon les artistes de variété française, essentiellement. Hein. Les autres artistes, je les ai écoutés après. J'ai écouté un petit peu Véronique Sanson, mais sans doute un petit peu après 72. Parce que 72, bah, comme Grincheux l'a dit tout à l'heure, c'était son premier album aussi à elle. Mais j'ai pas souvenir de l'avoir écouté tout de suite. En fait, j'avais pas une grande culture musicale. Enfin, je pensais que j'ai une culture musicale maintenant, mais en tout cas, quand j'étais ado, j'avais pas une grande culture musicale. J'écoutais un petit peu. En plus, on est. Vous les jeunes, vous connaissez pas ça, mais on avait très peu de radio, donc.
J'adore quand on me dit ça. Ça me fait du bien aux artères.
J'écoutais y passer. Enfin, c'était quand même mieux maintenant que maintenant les radios, parce qu'on avait beaucoup de musique sur les radios. Europe 1, par exemple, à l'époque, Europe 1 ou France Inter, hein, qui passait beaucoup chez moi. On avait beaucoup de musique, mais très variée. Beaucoup de variétés françaises, bien sûr. Mais la variété française, c'est pas quelque chose que. Enfin, moi, j'écoutais pas ça toute seule, la variété française. J'écoutais plutôt quand on était. À l'époque, on disait pas en soirée, on disait en boom. Mais c'était à peu près la même chose.
Est-ce que tout le monde ramenait ses disques en boom ? Est-ce que chacun mélangeait comme ça ?
Voilà, c'est ça. Ah. Chacun amenait ses 45 tours. Parce qu'il n'y avait même pas de cassette, hein. Il n'y avait que des 45 tours ou des 33 tours. Donc chacun ramenait ses disques, et puis voilà. Il y avait des Beatles quand même. Mais de style Maxime Le Forestier, à l'époque, j'ai pas souvenir qu'il y avait d'autres chanteurs qui étaient sur le même registre en fait. Mais ou alors j'ai oublié. J'ai pas de souvenir là-dessus. Mais si t'es vraiment
trop gêné. Un cheveu à toi.
Alors, aujourd'hui, est-ce que tu aimes toujours cet album ?
Les chansons, oui, ça fait longtemps que je l'avais pas écouté, mais oui, j'aime toujours. En revanche, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop suivi Maxime après par la suite.
Et est-ce que tu le ferais ou l'as fait écouter à tes enfants, à d'autres personnes, l'as fait découvrir à d'autres personnes ?
Oui. Je sais pas si c'est moi qui ai fait écouter, mais en tout cas, on a écouté ensemble avec les enfants San Francisco. Mais je crois que ça revient, en fait, ça revient pas à la mode, mais c'est une chanson qui a traversé un peu les âges, San Francisco.
Est-ce que ça marche encore, San Francisco ?
Bah, je sais pas. Je me demande si ça n'a pas été rechanté par d'autres chanteurs pour
Génération Le Forestier.
C'est vrai que ça existe, ça ?
Ah bah ça finira par exister un jour, malheureusement.
Ouais. Je pensais un truc genre comme ils ont fait les années 80, là. Je me demande s'il n'y a pas eu des chanteurs qui ont repris. Mais en tout cas, parce que j'ai l'impression que je l'ai entendu, il n'y a pas longtemps en français. Mon frère, par exemple, c'est une chanson qui est très belle, qui, moi, en plus, m'a parlé pour des raisons tout à fait personnelles, et qu'on n'a pas. Je pense pas que c'est une chanson qu'on a réentendue après.
Moi, je la connaissais pas, en tout cas. Avant d'écouter l'album, je la connaissais pas.
Tu la connaissais, ouais. Et toi, Barbarousse, non plus. Je crois que tu es fermé à Maxime Le Forestier, c'est ça.
Ah, mais moi, je suis fermé à tout type de musique, si tu veux, donc ça, c'est mort. C'est foutu. Je découvre plein de choses. Moi, c'est ça que j'aime bien, je découvre plein de trucs.
D'accord. Oui, donc en fait, j'ai quand même l'impression que... Enfin, c'est pas une impression. Je me semble que toutes ces chansons, on les entend plus beaucoup. Mais je peux me planter parce que j'ai un petit peu... j'écoute plus trop de musique en particulier, en fait. Moi, j'écoute, ben, là, actuellement, enfin, depuis que je suis, que j'ai un compte Mastodon, j'écoute les musiques qui sont postées par les gens que je suis. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que ça me permet de découvrir plein de choses que je connais, plein de groupes, plein de chanteurs que je connaissais pas. Mais en fait, j'écoute plus trop les albums de, entre guillemets, ma jeunesse. À part, par exemple, j'ai réécouté beaucoup, et je la réécouterai sans doute encore, Anne Sylvestre, mais c'est un registre un peu différent.
Ah tiens, une maison bleue.
Ah oui, bah voilà, oui. San Francisco.
San Francisco, je pense que voilà, c'est une chanson qui aujourd'hui est passée dans la culture populaire au sens large.
Que quelqu'un dans sa vie n'a jamais eu quelqu'un qui la reprenait autour du feu à la guitare.
À la guitare.
Je sais pas pourquoi, comment c'est possible, mais voilà, ça existe.
Barberousse, on se calme, je te sens prêt à donner des baffes, là.
Non, c'est pas vrai. C'est juste que il faisait froid, et l'autre qui était avec sa guitare, bah, il y avait toutes les nanas qui le regardaient, puis il y avait des grands yeux, puis moi j'étais tout seul de côté, et puis j'aime pas les gens qui font de la guitare.
Je comprends pourquoi tu n'écoutes pas de musique à la guitare.
D'accord. Voilà.
Et, alors, en fait, la Maison Bleue à San Francisco, elle existe. Ça, c'est un masto qui me l'a dit il y a quelques temps. Il avait posté une photo de San Francisco. Et du coup, je lui avais demandé s'il était allé voir la Maison Bleue et il m'a répondu qu'elle existait vraiment. Donc, elle doit se visiter, je suppose. Et... je pense que c'est une chanson qui a traversé un peu depuis 50 ans, elle a dû traverser plusieurs générations quand même.
C'est quand même dingue qu'il y ait une sorte de chanson magique comme ça qui puisse traverser tout ça.
Oui, parce qu'en plus elle est pas. Elle est sympa, mais bon, elle est pas non plus. Elle est pas renversante. Mais bon, peut-être aussi c'est le syndrome feu de camp et mec aux yeux qui joue de la guitare. Peut-être que c'est ça.
Ça doit jouer.
Ah ouais, ça dérange Barberousse, mais peut-être que c'est ça.
Bon, la Maison Bleue, depuis que j'ai lu les bouquins, pour moi, c'est associé aux Chroniques de San Francisco. Si vous avez lu ça.
Non, les Chroniques de San Francisco, mais c'est pas, y a pas une série là-dessus ?
Si, si, c'est une série de bouquins d'Amistad Maupin.
Non, hein.
Qui parle du San Francisco, gay, ouvert, de la fin des années 70.
Mm-hmm.
Et puis, au fur et à mesure des tomes, l'arrivée du sida, etc. Et voilà, c'est tout un groupe de personnes qui vivent autour d'une pension sur les ponts de San Francisco. Mais voilà, pour moi, la Maison Bleue de Maxime Le Forestier, depuis que j'ai lu ces bouquins, c'est associé.
Alors, d'accord. Juste pour une petite info, la Maison Bleue de Maxime Le Forestier existe en 1841, 18e rue de San Francisco, aux États-Unis, et en plus, il y a une plaque commémorative qui indique en 1970, Maxime Le Forestier s'est inspiré de cette maison bleue pour l'écriture d'un de ses tout premiers succès, San Francisco. C'est une maison bleue adossée à la colline, plaque offerte par le consulat général de France à San Francisco.
D'accord.
Mais par contre, la maison ne se visite pas.
Mais il y a la plaque.
D'accord. De toute façon,
vous tapez Maxime Le Forestier, San Francisco, maison bleue, littéralement, il y a un Google Street View devant avec les photos et tout. Et la maison, a priori, est encore bleue. Mais ouais, il y a une plaque et tout.
Il doit l'entretenir parce qu'il y a tous les Français qui vont à San Francisco qui s'y rendent, certainement.
Je te confirme, il y a des photos de mecs, c'est des bonnes têtes de Français qui sont devant. Et la plaque et tout.
Et la photo avec le minibus Volkswagen, le combi Volkswagen de garé devant, qui fait un peu cliché.
un peu hippie.
Oui.
Et c'était une autre époque.
Je crois pas que ça soit encore d'actualité. Pas si, encore des combis Volkswagen, je pense qu'on en a vu un récemment. Ouais.
Très à la mode. Maintenant, avec les rétrofittings électriques, changer le moteur pour un moteur électrique.
Donc vraiment pas étonné qu'ils nous en ressortent une version.
Non. Il y a des combis électriques.
Il y a des boîtes qui proposent de prendre un vieux combi et de le transformer en électrique, ouais.
Ouf. Non, remarque, c'est génial comme idée.
L'idée est géniale. Maintenant, ils surfent sur le buzz et ça vaut une fortune.
Ça doit coûter une blinde, c'est ça.
Beaucoup trop cher par rapport à ce que ça vaut, parce que...
Parce qu'ils ont tellement vieilli, les voitures, elles ont plus de 50 ans, quoi. Mais je serais pas étonné qu'il leur fasse un nouveau combi Volkswagen comme ça, un peu plus moderne mais en pur électrique.
De toute façon, régulièrement dans les salons, ils sortent un concept car basé dessus.
Mais genre le combi originel.
Non, ils ont en style néo-rétro. Reprendre le look du combi originel, on retrouve bien les lignes, mais modernisé sur un châssis moderne.
D'accord. Bah écoute, si ça marche, pourquoi pas, hein.
Alors, a priori, ça existe. Volkswagen ID Buzz combi électrique. C'est dégueulasse. Mais ça existe apparemment. Et c'est moche, hein. Ouh là là. On va juste définir cet album très rapidement en quelques mots, et c'est tous ces mots que tu vas nous les donner. Le meilleur de l'album ou le pire? C'est quoi le meilleur morceau? C'est quoi le pire morceau?
Alors, le meilleur morceau, je sais pas, ça dépend pourquoi. Le meilleur d'un point de vue, je pense que le meilleur morceau, c'est La Rouille, pour ce que ça représente. L'habitude du jeu des tours, nous croyons que notre amour avait une santé de fer. Ça peut paraître neuneux, mais moi, ça me parle. Et le pire...
Ah, c'est compliqué, le pire.
Ouais, c'est un peu compliqué parce que y en a un qui m'a jamais trop plu. Je sais pas, je dirais Fontenay aux Roses. J'ai jamais trop accroché avec ce truc un peu. Un mec là qui regarde des jeunes filles qui sortent du collège. Ça m'a toujours un petit peu. Ça m'a pas trop parlé.
Ça y est, le mieux, les pires. On les a vus. Grincheux, je t'invite à faire prononcer à notre invité la phrase qui va clore ce podcast. Et puis qui va aussi l'ouvrir.
Pour clore et non clôturer, pour clore ce podcast, je vais te demander de nous dire mon premier album à moi.
Mon premier album à moi.
Ah, on aurait dû dire merci d'abord, parce qu'après, je vais devoir couper à mon premier album.
Oui, non, on a toujours pas de fin. On a toujours
non,
pas de chute.
Alors, les fins, c'est pas ouf. Hein, faut vraiment qu'on travaille dessus. C'est, merci beaucoup, Marie, d'être venue.
Merci, Marie.
Merci à vous deux. Merci à vous deux. J'espère que vous écouterez un peu Maxime de ses années 70.
Non, mais c'est bon, je l'ai fait pour moi.